Dieu ne mettra-t-il jamais fin aux souffrances humaines? Le mal doit-il toujours prédominer sur le bien dans les affaires des hommes? Telles sont entre autres les questions que nous nous proposons de traiter aujourd'hui, comme suite à une série d'exposés que nous avons faits ces derniers temps et se rapportant à l'étude et à l'explication de la Bible. Ces émissions internationales vous sont transmises par l'Association des étudiants de la Bible, éditeur des publications Aurore. Dans le 21e chapitre de l'Apocalypse, verset 4, nous trouvons une réponse très nette à la question. Dieu ne mettra-t-il jamais fin aux souffrances humaines? Dans ce texte, il est dit de Dieu qu'il essuiera toute larme, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Cela, il me semble, règle définitivement la question, n'est-ce pas? N'est-ce pas ton avis, Pierre?
Oui, Thomas. Mais nous devons toutefois éclairer ce texte par son contexte, afin d'en bien comprendre toute la signification. Et l'on peut dire que la Bible entière en est le contexte.
Autrement dit, les promesses concernant l'âge prochain, au cours duquel il n'y aura plus ni maladie, ni mort, est une affirmation de ce que la parole de Dieu en entier présente comme une merveilleuse espérance pour l'humanité.
Exactement, mais avant tout, la Bible révèle que la raison des souffrances humaines réside dans la désobéissance à la loi divine.
C'est ce fait fondamental qui est révélé dans le premier chapitre de la Genèse, où nous apprenons la création de l'homme à l'image de Dieu et sa chute dans le péché et la mort.
Si l'homme n'avait pas transgressé la loi de Dieu, il aurait pu rester dans le jardin d'Éden, qui aurait été naturellement étendu sur la terre entière au fur et à mesure de l'accroissement de la race humaine. Dans ce paradis mondial, il n'y aurait eu ni maladie, ni souffrance, ni mort, ni guerre, aucun de ces maux qui ont frappé la race en raison de ses péchés.
Mais l'homme pécha et il fut chassé de sa demeure parfaite. Les souffrances et la mort ont sévi, ainsi que les autres maux que tu as mentionnés.
Tout à fait vrai, Thomas, mais lorsque le plan de salut de Dieu, tel qu'il est révélé dans la Bible, sera entièrement réalisé, la race humaine sera restaurée à la perfection, à la santé et à la vie. C'est la raison pour laquelle le texte que tu as lu au commencement nous assure qu'il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni douleurs.
Je me rappelle, Pierre, que dans notre étude du livre de la Genèse, nous avons trouvé plusieurs promesses selon lesquelles la race humaine devait être finalement sauvée du péché et de la mort. Cette merveilleuse promesse que Dieu fit à Abraham, lorsqu'il lui annonça que par sa semence, toutes les familles de la terre seraient bénies.
Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul explique que la semence promise à Abraham, c'est Christ, et ceux qui durent cet âge marchent fidèlement dans ses traces. Ceux-ci sortiront du séjour des morts à la première résurrection, pour vivre et régner avec Christ. Et c'est pendant les 1000 ans du royaume messianique que toutes les familles de la terre recevront les bénédictions de vie dont il est question dans les promesses faites à Abraham.
La manière dont cette idée grandiose de la restauration est développée à travers la Bible tout entière m'apparaît vraiment merveilleuse.
La Bible révèle aussi que l'homme sera délivré de la peine de mort, parce que Jésus prit la place du pécheur dans la mort. Paul a écrit que Jésus se donna lui-même en rançon pour tous, c'est-à-dire qu'il est le prix correspondant. Et c'est la rançon qui ouvre la voie de la délivrance aux captifs de la mort.
Le résultat de la rançon est mentionné dans le dernier verset du 35e chapitre d'Ésaïe en ces termes. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront.
Thomas, la Bible mentionne très souvent la joie de la race humaine lorsque le Seigneur abolira le péché, la maladie et la mort.
Et pense au merveilleux message lors de la naissance de Jésus. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout, le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Le mot « Christ » dans le Nouveau Testament a la même signification que Messie dans l'Ancien Testament. Ainsi, lorsque l'ange annonça au berger que Christ était né, il voulait dire que les merveilleuses promesses messianiques de l'Ancien Testament commençaient à avoir leur accomplissement. Le Messie était venu.
Mais comme nous l'avons appris dans notre étude de la Bible, la première mission du Sauveur promis était de souffrir et de mourir pour l'humanité déchue.
C'est vrai. Et c'est pendant sa seconde présence sur la terre que les bénédictions de bonheur et de vie promises seront rendues effectives pour le peuple, c'est-à-dire que toutes les familles de la terre seront bénies.
Je suppose que beaucoup de personnes ne comprennent pas cela et se demandent pourquoi Dieu permet au péché et à la mort de continuer à sévir sur la terre, ne faisant rien apparemment pour remédier à cet état de choses.
C'est vrai. Mais on ne peut pas juger le talent d'un architecte avant que la construction qu'il a entreprise ne soit terminée. De même qu'on ne peut pas juger du plan de Dieu encore en exécution avant sa complète réalisation.
Cependant, Pierre, la confusion pour beaucoup réside dans le fait qu'il s'imagine que le plan de Dieu pour le salut de la race humaine est déjà réalisé, qu'il fut accompli au calvaire par la mort de Jésus comme rédempteur de l'homme, et que maintenant ceux qui manquent d'apprécier à sa juste valeur ce sacrifice et de l'accepter sont perdus à jamais.
Mais ceux qui raisonnent ainsi omettent de prendre en considération les merveilleuses promesses de Dieu, lesquelles assurent que Christ reviendra sur la terre pour y établir un puissant gouvernement, que par ce moyen il mettra en œuvre les bénédictions de vie rendues possibles par la mort du Rédempteur, qu'elles seront répandues sur tous les peuples. Ainsi vois-tu, Thomas, l'on ne peut pas dire que Dieu s'est désintéressé du genre humain, car à travers les âges, bien que permettant que les hommes souffrent et meurent, il a préparé et formé ceux qu'il utilisera dans le royaume messianique pour répandre les bénédictions promises. Pendant ce temps, chaque génération de la race humaine a fait l'expérience des terribles conséquences de la désobéissance à la loi divine, et le résultat de cette expérience sera que les hommes pourront apprécier toute connaissance de cause, le grand amour que Dieu leur a témoigné en leur procurant une autre opportunité de vivre, et cela sans maladie et douleur et sans les autres maux inhérents au péché.
Sûrement, Dieu a un plan merveilleux pour la rédemption de la race humaine et pour la sauver de la mort. Et ce qui m'a fortement impressionné au cours de notre étude, livre après livre de la Bible, c'est la parfaite harmonie qui existe entre tous ces livres et leur révélation de ce grandiose et divin plan des âges.
Oui, Thomas. Et l'apôtre Pierre a reconnu ce même fait, annonçant le but de la seconde présence de Christ sur la terre comme étant le rétablissement de toutes choses. Il ajoute que ce plan divin pour la restauration de la race humaine a été révélé par la bouche de tous les saints prophètes depuis la création du monde. Ce n'est pas quelque chose qui est relégué ou caché, pour ainsi dire, dans quelques parties obscures de la Bible et difficile à trouver.
Et Pierre, les auteurs du Nouveau Testament donnent aussi leur témoignage concernant les bénédictions qui doivent être apportées au genre humain par l'établissement du royaume messianique. Paul écrit que Christ règnera jusqu'à ce que toute chose soit mise sous ses pieds et que le dernier ennemi qui sera détruit est la mort.
Oui. Et l'apôtre Pierre a écrit que, confiant dans les promesses de Dieu, nous devons tourner nos regards vers de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où habitera la justice.
Pierre, je sais évidemment que la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre n'implique pas la création par Dieu d'un nouvel univers. Mais que signifie exactement ce symbole?
Eh bien, ainsi que nous l'avons appris dans notre étude du livre d'Ésaïe, où cette promesse est faite pour la première fois, les nouveaux cieux et la nouvelle terre représentent des phases spirituelles et humaines du royaume messianique. Christ et ses fidèles disciples seront les gouverneurs spirituels de ce royaume, et les anciens serviteurs de Dieu ressuscités en seront les représentants humains sur la nouvelle terre.
L'apôtre Pierre dit que la justice habitera dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Qu'entend-il par là?
Je pense que la meilleure réponse à cette question se trouve dans les 5 premiers versets du 21e chapitre de l'Apocalypse. Dans le premier verset, l'apôtre Jean dit qu'il vit un nouveau ciel et une nouvelle terre. le premier ciel, ou puissance spirituelle du mal, et la première terre, ou monde de Satan, l'ordre social actuel, avait disparu, et la mort n'était plus. La Bible explique que la mer symbolise les passions humaines, les masses sans cesse agitées et souffrantes de l'humanité. Lorsque le royaume sera établi, le désir de toutes les nations sera satisfait. Les peuples de cette nouvelle terre ne seront plus en détresse.
Je remarque qu'au verset suivant, il est question d'une ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Est-ce là aussi un symbole se rapportant au royaume messianique?
Oui, et au verset suivant, il est dit que le tabernacle de Dieu sera établi avec les hommes, ce qui démontre une fois de plus que par l'établissement du royaume, la main de Dieu se fera sentir pour la bénédiction des peuples. À ce moment-là, les humains ne se demanderont plus pourquoi Dieu n'intervient pas pour apaiser leurs souffrances.
Et Pierre, le verset suivant est justement celui par lequel nous avons commencé. Celui qui résume le dessein des promesses de Dieu concernant la race humaine. C'est le texte dans lequel il est dit que Dieu essuie toute larme, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu.
Et ensuite, au cinquième verset, nous lisons, « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Thomas, toutes ces choses se feront, car le Dieu du ciel en a donné la garantie.
Et amis, c'est là le rassurant message qu'apporte la brochure, la révélation de Jésus-Christ. Cette brochure est la dixième et la dernière d'une série d'études se rapportant à l'ensemble de la Bible. Demandez-en dès maintenant un exemplaire gratuit. La brochure, la révélation de Jésus-Christ, se rapportant tout spécialement à l'étude du livre de l'Apocalypse, montre de quelle manière les points essentiels de la révélation prophétique figurant dans les premiers livres de la Bible ont été développés et précisés dans ce dernier livre de la Bible. Le salaire du péché, les promesses de Dieu d'abolir la mort, l'enfer de la Bible, le jour du jugement, le royaume de Christ et ses bénédictions, telles sont les questions traitées dans cette brochure hautement édifiante pour la foi. Demandez révélation, il suffit que vous reteniez ce seul mot, révélation. La brochure vous sera envoyée sans aucun frais de votre part. Demandez-la dès maintenant, c'est la dernière fois qu'elle vous est offerte. Cette émission se rapportant à l'étude et à l'explication de la Bible vous a été présentée par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, éditeur des publications Aurore. Nous aurons le plaisir d'être avec vous de nouveau la semaine prochaine à la même heure. Faites-en part à vos amis, s'il vous plaît, et que Dieu vous bénisse tous.